Les 19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone dans le dialogue des religions ce mercredi. Le troisième anniversaire de la loi contre le voile intégral en France, une mesure interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Vous avez rendez-vous dans moins de 5 minutes avec Idrissa Seydou Dia. Maintenant, un bulletin d'information. En République centrafricaine, des hommes armés ont brûlé au moins 9 villages et tué une vingtaine de civils dans la région de Paoua, dans le nord du pays, à Bangui. La présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, en dépit de l'insécurité, fait du retour des déplacés de la capitale une priorité. On écoute la présidente de la République centrafricaine.
Nous voulons encourager le retour des déplacés dans leur zone de résidence, d'origine. Mais bien entendu, il faut au préalable avoir résolu en partie le problème de l'insécurité. L'un des palliatifs, de faire jouer la solidarité familiale pour que ceux qui peuvent accueillir certains membres de leur famille puissent les accueillir déjà. Et puis qu'on essaye de voir la mise en place des centres de transit pour désengorger un peu certains sites.
Catherine Samba-Panza, la présidente de transition en RCA. Les Algériens sont appelés aux urnes demain pour élire leur président. 6 candidats sont en lice, dont le président sortant Bouteflika, qui est donné favori face à lui, Ali Benflis, l'ancien premier ministre qui fait office de seul vrai rival. Les populations nomades ont commencé à voter dès lundi. Elles ont à leur disposition 167 bureaux de vote itinérants à travers le pays. Les Algériens de l'étranger, eux, ont commencé à voter depuis samedi dernier.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Ukraine, les insurgés pro-russes ont saisi des blindés dans la ville de Sloviansk, près de la frontière russe. Ils contrôlent plusieurs bâtiments publics de la ville de Donetsk et d'autres villes et exigent maintenant un référendum sur leur attachement à la Russie. L'Ukraine a lancé hier une opération dite antiterroriste, mais pour l'heure n'a pas réussi à déloger les insurgés. En principe, demain à Genève s'ouvrent des pourparlers difficiles. Pour Moscou, la solution est dans la fédéralisation, alors que Kiev parle de menaces de morcellement du pays. Le secrétaire général de l'OTAN a décidé un renforcement de la présence militaire de l'Alliance en Europe de l'Est. Des centaines de personnes sont portées disparues après le naufrage d'un ferry au large de la côte méridionale de la Corée du Sud. Camille Gros-Didier.
Au moins 4 morts et quelques 300 disparus au large des côtes de la Corée du Sud suite au naufrage d'un ferry mercredi. Il y aurait pour le moment 174 rescapés. Les autorités avaient d'abord signalé que la plupart des passagers avaient été sauvés, mais le bilan risque de s'alourdir. Selon les autorités sud-coréennes, le ferry transportait 462 passagers quand il a envoyé un signal de détresse à 9h du matin, heure locale. Des passagers ont affirmé avoir entendu un grand bruit avant que le navire commence à chavirer et a été presque complètement englouti en quelques heures. Des navires privés, des hélicoptères, les gardes-côtes et des plongeurs sont mobilisés pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. La plupart des personnes à bord étaient des lycéens qui se rendaient d'Incheon à l'île de Jeju, une station balnéaire dans le cadre d'un voyage scolaire.
Merci Camille. La sentence est tombée pour Silvio Berlusconi, l'ancien premier ministre italien. Il devra s'occuper des personnes âgées. Le tribunal a décidé que l'ancien chef de l'État devra passer 4 heures par semaine dans une infirmerie de l'église. Il devra tenir compagnie aux résidents et les amener à la messe. Vous suivez la Voix de l'Amérique dans un instant. Dialogue des religions, ce sera avec Idrissa Seydou Dia.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la Voix de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes, au micro Idrissa Seydou Dia dans le dialogue des religions de ce mercredi 16 avril 2014, le troisième anniversaire de la loi contre le voile intégral en France. Une mesure interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Où en est le débat? Quelques éléments de réponse dans un instant avec nos invités. Mohamed Enish, secrétaire général de l'Union des associations musulmanes Seine-Saint-Denis, Tierno Adityam, président du Conseil fédéral national des adeptes de Tidjania, deuxième vice-président du Conseil national des droits de l'homme du Mali, et membre du Haut Conseil islamique du Mali et chargé de la communication, et Dominique Konkou, avocat en droit international public, sociologue et spécialiste du dialogue interreligieux. Vos commentaires et questions sur Facebook dans un instant. Alors, tout d'abord, pour camper le sujet, nous allons faire appel à nos invités. Joselle, qui avons-nous en ligne? Donc, nous avons en ligne M. Tierno Adityam. M. Tiam, vous m'entendez?
Oui, je vous écoute.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous d'abord ce que dit l'islam spécifiquement concernant le voile.
Écoutez, le mot voile, l'islam, la langue arabe, le Coran est descendu dans la langue arabe. La langue arabe est une langue qui est très, très riche. Et chaque ethnie ou chaque tribu arabe dans le temps avait ses interprétations pour les mots. Quand on parle de hijab, dans la langue arabe, veut dire le rideau, veut dire beaucoup de choses, quelque chose qui sépare entre des choses. Donc, dit le foulard, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a jamais entendu parler du foulard. Nous, en Afrique ici, on a vu les foulards pour la première fois avec les chrétiennes. Ce qu'on appelait ici, dans notre jargon africain, les sœurs, ma sœur, qui sont venues pour l'évangélisation en Afrique. On voyait des foulards sur leur tête. Mais le foulard est rentré dans le monde islamique, à ma connaissance, en tant qu'islamologue et enseignant de l'histoire d'islam dans les lycées, de 83 jusqu'à 99, et j'ai sillonné le monde islamique. Je sais que l'Empire ottoman, qui a fait la conquête des pays balkans, tels que Yougoslavie, Tchécoslovaquie, les Boubrous, Chypriotes et autres, qui étaient chrétiens, a pris le foulard là-bas. Donc, c'est une culture chrétienne qui a été introduite par les Turcs en Égypte et là où il y avait leur influence. Parce qu'on ne peut pas imaginer que la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met le foulard sur sa tête et porte les pantalons, par exemple. Tel qu'on voit aujourd'hui en Iran, en Égypte, en Tunisie, au Maroc et en France.
Alors,
donc, le mot foulard est étranger à l'islam. Donc, il n'y a pas de foulard islamique à ma connaissance. Il y a simplement foulard qui est purement culturel.
Ok.
Mais protéger la femme, le oui. corps de la femme, ça, c'est purement religieux.
Ok. Alors.
Dieu n'est pas un styliste. Dieu n'est pas un couturier pour nous donner comment faire ce foulard-là. Donc, c'est purement culturel et ça varie d'un pays à un autre, d'une ethnie à une autre ethnie. Voilà. L'islam, c'est une grande ouverture sur le monde et sur la civilisation.
Donc, l'islam est très tolérant sur ce sujet. Vous avez parlé tout à l'heure de rideau et en parlant du mot « hijab ». Pour décrire le sujet dont nous parlons aujourd'hui. J'ai lu quelque part qu'en fait, le rideau était là pour séparer les épouses du prophète de ceux qui venaient lui rendre visite chez lui.
Et bien sûr, parce qu'il y a un verset coranique qui dit que les femmes du prophète ne sont pas comme les autres femmes. Et même chez vous, aujourd'hui, la femme, ce qu'on appelle aujourd'hui les premières dames, elles ne sont pas comme les autres dames d'aujourd'hui. Elles ont des considérations. Donc, elles ont des respects. On leur doit des respects. Donc, chaque époque a ses explications pour les choses. Nous, on ne peut pas être aujourd'hui, au 21e siècle, pour juger les 100 ans passés avec notre esprit européen ou, si vous voulez, africain. Il faut vivre le temps pour pouvoir comprendre. Le temps change, l'esprit change, la culture change.
Alors, nous allons essayer quelques auditeurs pour voir quels commentaires ou quelles questions ils ont pour vous.
Kweli Mbaruku Yannick, je suis résident au Congo démocratique, précisément dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Katanga. Je suis en terminale du deuxième cycle à la faculté des droits. Je voudrais savoir c'est quoi les bien fondés de cette idée-là. Pourquoi ils aimeraient en faire un problème? Ce n'est vraiment pas très, très mal que les femmes se voilent ou que certaines soient libres de ne pas se voiler ou de se voiler, étant donné que la France est un État laïque.
Monsieur Mohamed Enish vient de se joindre à nous, Monsieur Tierno Adikam. Alors, puisqu'il est en France, je vais lui laisser le soin de répondre à la question de notre auditeur. Je ne sais pas s'il a entendu cette question. Monsieur Mohamed Enish.
Entendu la question, si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît.
Oui, il veut savoir pourquoi la France a décidé de prendre cette décision il y a 3 ans concernant le voile intégral et interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Et qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça, c'est moi qui ajoute à la question.
Pourquoi elle a décidé, honnêtement, c'est purement du calcul politicien. Parce qu'il n'y avait aucune menace et même le nombre de femmes portant le voile intégral était un nombre très très limité. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, tout le monde, même les services de sécurité de la France, lorsqu'il y avait débat, ont lancé le chiffre de 300 femmes, toute la France. Ça, c'est deux services différents de la sécurité française qui ont lancé ce chiffre. Ils ont dit approximativement, il y a 300 femmes. 300 femmes, le nombre de musulmans en France, c'est à peu près 5 millions. 5 millions sur 300, c'est rien. C'est absolument rien. Donc le but derrière était purement politicien. Il y avait une volonté de surfer sur la peur et de mettre de draguer l'électorat extrême droite. C'est une volonté de draguer cet électorat-là, puisque ça correspond à rien. Maintenant, maintenant il n'y a plus de femmes qui portent le voile intégral? Faux. Il y a toujours des femmes, comme avant, quelques dizaines. La preuve, c'est que l'année passée, pendant l'été, tout le monde a suivi qu'il y avait des grandes émeutes dans la région parisienne parce qu'une femme portait un voile intégral et la police voulait l'interpeller et ça a dérapé en grande émeute dans la région parisienne. Donc il y a toujours en France des femmes qui portent le voile intégral, mais c'est une petite minorité comme tout le temps.
Alors, je vais revenir tout à l'heure sur la définition de voile intégral. Mais on me signale que Tierno Adikam aimerait faire un commentaire sur la question.
Bien sûr. Vous savez, vous pensez que la France est le centre du monde. Si la France vote des lois, c'est purement française. Ça ne s'applique pas sur le monde entier. Depuis la Révolution française, Dieu est mort là-bas. Donc, si la France veut interdire les voiles intégrales ou non intégrales, je ne sais pas même pas ce que cela veut dire intégral. Si la France veut faire ça, je vais répondre comme Tantawi, le chef de Azhar, avait dit dans son fatwa, la France n'est pas un État islamique, c'est un État laïque. Donc on n'a qu'à laisser la France avec ses problèmes. Nous, en Afrique, ici, par exemple, on ne pense même pas au voile. On pense au ventre d'abord et à la lutte contre le sida et d'autres maladies et la famine, le sous-développement, les coups d'État, les guerres civiles. Mais vraiment, on a d'autres problèmes que des voiles. Est-ce que les voiles font partie des piliers de l'islam? Non. Ça, c'est des parures. Donc, on ne doit pas laisser les essentiels et aller se coller à des choses éphémères qui ne changent rien dans la vie des hommes.
Alors, comment dirais-je, M. Thiam, tout à l'heure, M. Mohamed Inish a dit que c'était en réalité pour des raisons politiciennes. Mais qu'entend-on par voile intégrale, M. Inish? Allô?
La loi qui a été votée, c'est tout ce qui cache le visage, qui ne permet pas de voir le visage. Donc c'est ça le voile intégral. Peut-être on peut voir les yeux ou non les yeux, mais si on ne peut pas voir le visage, ben là c'est le voile intégral. Et ça, il y a une loi qui a été votée il y a 3 ans, le mois d'avril, pour interdire ce type de voile. Maintenant, pour l'auditeur qui a intervenu pour dire il ne faut pas que ça devienne un problème, c'est que les musulmans n'ont pas créé ce problème. C'est une petite minorité qui voulait draguer les voix de l'extrême droite. C'est elle qui a voté cette loi. Et combien même les musulmans, dont la majorité des musulmans, ont accepté cette loi. Et ils ont dit que c'est pas nécessaire. Et en plus, ça concerne une petite minorité. Les musulmans ont dit, il n'y a pas de problème, avançons. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils veulent faire une loi pour interdire le voile simple, c'est-à-dire où le visage est apparent. On veut interdire les femmes qui portent le voile simple à l'université. Pourquoi? Pourquoi on veut l'interdire? Après, maintenant, ils veulent faire une loi pour interdire dans les sociétés privées de recruter une femme qui porte le voile. C'est du n'importe quoi. Une société privée, par exemple, quelqu'un qui est privé, particulier, tout seul, il a envie que sa secrétaire soit voilée, pourquoi on va lui interdire ça? Pourquoi?
Ouais.
Donc, là, on voit que le problème, ce n'est pas un problème d'une minorité de musulmans qui ne veut pas s'intégrer ou une minorité radicale. Non, c'est qu'un problème, c'est qu'il y a une obsession d'une minorité, d'une élite française, une obsession à toujours stigmatiser les musulmans.
Quand bien même
les musulmans acceptent toutes les lois, mais ils continuent de faire des lois. À un moment, on arrête. Lorsque quelqu'un, tu lui fais une loi, il accepte, une deuxième loi, il accepte, il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de rejet. À un moment, on accepte et on vit ensemble. Mais lorsqu'on continue à faire d'autres lois, c'est qu'il y a un problème.
Merci. Alors, tout à l'heure, je vous poserai justement la question de savoir s'il y a une sorte d'islamophobie en France. Mais avant cela,
vous êtes à l'écoute du Dialogue des religions, tous les mercredis à partir de 19h TU. Pour intervenir en direct, vos numéros de téléphone, questions et remarques sont les bienvenus sur notre page Facebook ou à l'adresse suivante fr@voanews.com.
Alors justement, nous avons en ligne un auditeur. Allô?
Allô?
Fidèle. Ah non, ce n'est pas un auditeur, c'est notre ami Fidèle. Fidèle, allez-y.
C'est l'ami Fidèle de l'émission, ouais. Oui, je voulais ajouter à ce que notre ami faisait comme des commentaires. Il a plus vu le côté politique de la voile, des décisions qui ont été prises. Mais il faut ajouter aussi que depuis les attaques terroristes qui ne diminuent plus, la tendance est, cela ajoute à des phobies humaines. Quand je ne peux pas te voir, je ne peux pas te reconnaître, tu me fais peur. Et quand tu me fais peur, tu me mets sur la défensive. C'est tout à fait humain. Je crois que la voile, comme on est en train de la caractériser, où on se couvre totalement la face, et effectivement, à tout humain qui n'est pas habitué à cela, ça fait peur. Je vais donner ici un cas particulier. J'étais au Kenya pour la première fois que j'ai vu une femme somalienne habillée en noir et totalement couverte. Il n'y avait que des petits yeux qu'on pouvait voir. Franchement, je suis dans mes cinquantaines, j'ai eu peur c'était en public, c'était au marché. C'était la première fois que j'ai vu ça. Donc, il faut prendre aussi les questions sécuritaires en considération.
Merci, Fidel. Alors, un auditeur, une question, un commentaire.
Chris Mouteba, je suis en RDC, à Kinshasa précisément. Enfin, moi, je suis contre le fait que l'on ait interdit à ces femmes d'avoir leur voile, parce que c'est leur culture, c'est leur tradition, en fait. Si ça ne touche en rien la sûreté du pays, je ne vois pas pourquoi on va interdire à quelqu'un, parce qu'en relations internationales, quand vous recevez des étrangers, ils doivent jouir aussi d'un certain droit de liberté chez vous. Donc, qu'on leur laisse avec leur voile, moi je ne vois pas de mal concernant ce voile-là. Donc, par rapport à cette loi-là, moi je m'inscris un peu en faux pour ça. Si vraiment ce sont des femmes qui ne font rien de mal dans le pays, qu'on leur accepte comme ça, c'est leur culture, c'est ça eux.
Merci, cher auditeur. Alors, Mohamed Enish et puis Tierno Adikam, s'il vous plaît.
Oui. L'argument sécuritaire, vraiment, on nous l'a balancé pendant cette polémique, mais ça tient pas la route, puisque il faut savoir une chose, que la femme, lorsqu'elle porte un voile intégral, s'il y a une fouille de la police ou une volonté de demander de décliner son identité, elle montre son visage à la police. Mais maintenant, devant les passants, une femme, elle n'a pas envie de montrer son visage à tous les passants. Elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, si on prend l'argument, le France, pays de démocratie, oblige ou interdit à toute femme de porter le voile intégral, qu'est-ce qu'elle peut dire cette France lorsque, en Arabie Saoudite ou en Iran, on oblige à une femme occidentale, qui n'est pas musulmane, de se voiler? Moi, personnellement, je pense qu'une femme occidentale, si elle va dans un pays, elle s'habille comme elle veut. Bien sûr, il ne faut pas qu'elle choque les gens, mais elle peut s'habiller comme elle veut. Donc l'obliger à porter le voile intégral en Arabie Saoudite, parce que c'est comme ça, ou un voile de se voiler en Iran, c'est pas bien. Donc pareil, en France, il faut qu'on laisse la possibilité à la femme de se vêtir comme elle veut, du moment que c'est son libre choix. Donc l'argument sécuritaire ne tient pas beaucoup la route. Maintenant, combien même les musulmans de France, ils ont dit « Ok, on accepte cette loi qui interdit le voile intégral. » Pourquoi ces mêmes personnes vont continuer à chercher à interdire le voile simple où on voit le visage, l'interdire à l'école, l'interdire à l'entreprise? Est-ce que c'est l'argument sécuritaire? Il n'y a plus de sécurité. Donc c'est que derrière, ce n'est pas un argument sécuritaire, c'est que derrière, il y a une volonté de combattre toute visibilité ou manifestation de cette religion musulmane. C'est ça le problème. C'est pour cela que les musulmans voient que tout cela, c'est une manifestation d'un racisme anti-musulman ou ce qu'on appelle l'islamophobie.
Monsieur Thiam, qu'est-ce que vous avez à ajouter?
Moi, je vais réagir. Vous savez, voile ou pas voile, le premier voile, c'est craindre Dieu. Ça, c'est dans le cœur. C'est une question de foi chez les musulmans, craindre Dieu. Et pendant le pèlerinage, il y a certaines écoles islamiques qui interdisent à la femme de fermer ses yeux avec les voiles. Je dis bien certaines écoles. Si la France vote les lois, ça doit s'appliquer à la France. Parce que les musulmans qui sont sur la terre de la France doivent respecter les lois françaises. Mais en réalité, on disait dans les temps, si tu veux devenir un anticommuniste, il faut aller en URSS. Aujourd'hui, si tu veux devenir un anti-démocrate, il faut aller en Europe.
Merci beaucoup.
L'Europe nous parle de la démocratie, mais en réalité, l'Europe veut nous imposer sa culture, sa façon de voir le monde.
Merci, Monsieur Thiam.
Et là, et c'est ce qui crée d'ailleurs l'intégrisme et l'insécurité.
Merci.
Qui a créé Ben Laden?
Monsieur Thiam.
Qui a créé le terrorisme?
Monsieur...
C'est l'Europe et les États-Unis. Ce n'est pas l'islam.
Merci.
L'islam n'a rien à voir avec le terrorisme.
Merci, Monsieur Thiam. Tout à l'heure, notre ami a M. Mohamed Enish a parlé du droit des Occidentales, quand elles se rendent en Arabie Saoudite, de pouvoir s'habiller comme elles l'entendent. Donc la France devrait pouvoir faire la même chose. Même si, comment dirais-je, les musulmans, dans leur majorité écrasante, ont accepté la loi française. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin que le voile intégral avec le voile simple. Je reviendrai tout à l'heure à vous, Monsieur Thiam, mais j'ai constaté par exemple qu'au Sénégal, il y avait une tendance chez une certaine catégorie de musulmanes qu'on appelle les Ibadou. Et là, elles estiment que c'est l'islam qui impose à la femme de se couvrir de la sorte. J'ai aussi une autre question pour Monsieur Mohamed Enish. Et ça rejoint aussi certains commentaires d'auditeurs qu'on a vus sur Facebook. Récemment, en Afghanistan, il y a eu des terroristes qui s'étaient déguisés en femmes, en burqa, et qui ont commis des actes terroristes. Est-ce que donc la préoccupation sécuritaire n'est pas légitime dans ce cas, M. Mohamed Enish?
On peut le croire s'il y avait, comme je l'ai dit, qu'une volonté d'interdire le voile intégral et on passe à autre chose et on est dans le vivre ensemble et le respect de tout le monde. Mais lorsqu'on voit ces gens-là, nous on leur a posé la question à ces gens-là, on leur dit voilà, vous êtes contre le voile intégral. On leur a posé la question, est-ce que vous êtes pour un voile simple d'une femme qui travaille un voile simple? Est-ce que vous êtes d'accord? Ils n'ont pas voulu répondre. Donc c'est que ces gens-là, même le voile simple, ils sont contre. Si ces gens-là disaient, écoutez, nous, une femme qui porte un voile simple, on la respecte, elle peut vivre en France, elle peut travailler en France, elle peut étudier en France, mais juste le voile intégral, c'est pas possible. Ben, tout le monde serait d'accord. Mais ces gens-là, ils sont aussi contre le voile simple. Ils sont aussi contre. Ils supportent pas le voile simple. Ils disent, on est contre le voile intégral parce qu'il y a sécurité. Ok, et le voile simple, c'est quoi votre position? Ils disent pas.
Merci. Donc, une autre question.
Je m'appelle Igbo Makassi, depuis Goma, en RDC Congo. Donc voici ma question. Comment le gouvernement peut-il gêner la population musulmane à ne pas appliquer les règles de leur religion? Dans un pays démocratique, comment c'est possible la liberté des religions n'est pas observée? Donc dans un pays qui se nomme démocratique, on peut voter une loi qui étouffe la liberté des religions des autres.
Monsieur Mohamed Enish.
J'ai pas bien compris la question.
Il se demande si en démocratie on peut vraiment imposer un tel interdit à la population.
Le problème, c'est que la démocratie, si la majorité impose son dictat sur la minorité, c'est pas une démocratie. Parce que si on passe par la majorité, les musulmans en France ou en Occident sont minoritaires. Donc on peut leur enlever tous leurs droits, on dit voilà, c'est la démocratie qui a décidé. Mais c'est pas ça la démocratie, c'est pas que la volonté de la majorité. Il faut aussi respecter la minorité. Et nous, on est minoritaire ici. Ils peuvent faire toutes les lois. Ils disent, voilà, par exemple, il y avait une volonté d'interdire que les mosquées, il y ait un minaret. OK, ils passent au vote, ben, ils vont gagner. Demain, ils vont dire pas de mosquée. Après, demain, il y avait un débat. Il ne faut pas que le prêche dans les mosquées soit en langue arabe, soit tout en français. Ben, ce n'est pas bon. On ne peut pas tout faire par le vote.
Merci beaucoup, M. Mohamed Enish. Je me rappelle, dans les années 80, il y avait ici un débat aux États-Unis où les États-Unis se plaignaient beaucoup de ce qui se passait au niveau des Nations Unies et se plaignaient de la dictature de la majorité. Donc, il est nécessaire de garantir les droits de la minorité un peu partout dans le monde. Voilà, alors nous remercions M. Mohamed Enish, qui est secrétaire général de l'Union des associations musulmanes Seine et Saint-Denis, et M. Thierno Hadi Thiam, qui est président du Conseil fédéral national des adeptes de Tijana au Mali. Et merci aussi à tous les auditeurs qui nous ont écrit et qui ont participé à l'émission. Joselle Morissin, de l'autre côté de la vitre, Idrissa Sédoudia, La Voix de l'Amérique, Washington.